Bonsoir à tous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'Atlantide, c'est le sujet que nous allons étudier. C'est un sujet extrêmement intéressant, chers amis, parce que puisqu'il nous raconte l'histoire de notre monde sur la planète Terre. Notre Terre, savez-vous, a eu déjà quatre races humaines antérieures à la nôtre. Les Aztèques parlaient de lui et nous disant et nous parlant de quatre soleils qui ont existé sur Terre. Je le répète, les quatre soleils des Aztèques. Eh bien, le premier soleil, la première race humaine, fut la race polaire. La deuxième, la race humaine hyperboréenne. La troisième, la race de la Lémurie. Et la quatrième fut précisément celle de l'Atlantide. D'accord? C'est la quatrième race humaine de la Terre. Parler de l'Atlantide va nous permettre de voir comment se passe l'histoire d'une race. Quel est le processus et que sera la base, le fondement pour comprendre la mission que nous avons ici en tant qu'êtres humains, en tant qu'hommes et femmes, en tant qu'étincelles et d'essence ici sur Terre, parce que tout a un but, une raison d'être, même nous comme êtres humains, même la planète Terre, bien sûr. Lorsque l'on étudie les codex Borgia, codex merveilleux de nos ancêtres, c'est vraiment surprenant. Nous avons un être humain portant le céleste sur ses épaules. C'est l'Atlantéotl. Il ressemble beaucoup à l'Atlas grec que nous connaissons bien de sa mythologie, n'est-ce pas? Si nous enlevons la termination OTL, O-T-L, un nom maya et aztèque de Atlantéotl que vous voyez dans le dessin, dans votre écran, nous avons le mot Atlanté, n'est-ce pas? C'est une preuve irréfutable de l'existence de ce continent et de cette race humaine connue par les ancêtres. Ce n'est pas seulement un mythe comme tout le monde peut le croire, mais c'est une humanité qui a réellement existé il y a des milliards d'années et qui a eu une civilisation extraordinaire. Mais cette race humaine a dégénéré et a été détruite finalement comme sont détruites toutes les races qui dégénèrent. Elles s'autodétruisent ou sont détruites par des phénomènes naturels. Nous avons donc cette merveilleuse coïncidence. L'Atlantéotl Maya est aztèque avec les Atlas grecs qui nous donnent la racine de l'Atlantide. Bien sûr, il existe beaucoup de livres qui parlent de l'Atlantide, n'est-ce pas? Mais beaucoup d'entre eux sont vraiment fantaisistes. D'autres sont délibérément écrits pour nous tromper. Oui. Heureusement, il existe des chercheurs sérieux à ces propos et nous pouvons nous en approcher pour étudier ce thème merveilleux. Et des chercheurs sérieux et nous pouvons les étudier pour connaître un petit peu plus de l'Atlantide. Parmi eux, il y a Elliot Scott qui nous a amené laisser quelques cartes géographiques qui nous montrent comment était la géographie de la planète au fur et à mesure de différentes catastrophes terrestres qui ont secoué la Terre. La géographie terrestre au temps de la Lémurie et de l'Atlantide avec ses différents changements géographiques et géologiques. Nous avons tout cela, heureusement. La maîtresse Elena Petronila Blavatsky, initiée d'origine russe dans ses œuvres monumentales comme l'Isis dévoilée ou la Doctrine secrète, nous parle de ces continents. Comment fut l'Atlantide, comment fut son histoire, comment les Atlantes dégénèrent, comment ils commencèrent à adorer leur propre corps au lieu de se tourner vers la divinité, et en disant sans arrêt, nous sommes des dieux, nous sommes des rois. Et c'est à ce moment-là qu'ils perdirent alors l'usage de leur troisième œil. Et c'est ce que confirment des documents anthropologiques de cette grande initiée. Les Atlantes perdirent leur mission spirituelle. Le fondateur de cette étude gnostique, le maître Samael Aumbeor, nous donne un formidable enseignement sur l'Atlantide. Et c'est, chers amis, la base de cette conférence, d'accord? Nous avons aussi, bien sûr, le docteur allemand Arnold Krumheller, qui nous a laissé beaucoup d'informations dans ses livres sur le sujet de l'Atlantide. Nous pouvons donc faire confiance à tous ces chercheurs et nous faire une bonne idée de ce qu'était cette race qui a existé, les Atlantes, et aussi connaître un petit peu plus sur les buts que nous avons comme humanité et comme des êtres humains. Allons-y. Nous avons aussi des philosophes, bien sûr, comme Platon, qui était très respecté et dont de nombreuses personnes ont suivi les enseignements et qui, dans ses écrits, a émis beaucoup de théories, d'hypothèses, de raisonnements, etc. au sujet de l'Atlantide. Platon nous parle de ses écrits, précisément de cette humanité, dans ses écrits. Et il nous donne même des noms de plantes ainsi que beaucoup d'autres informations. Un législateur d'Athènes appelé Solon a rencontré des prêtres de Saïs. Saïs est une ancienne ville égyptienne sacrée. Durant leur conversation avec lui, les prêtres lui apprennent que là où maintenant se ressemblent les phoques, il y avait des moutons qui broutaient, et là où il y a maintenant des poissons, il y avait des titans. Ces prêtres lui parlèrent aussi de l'existence de l'Atlantide et que 9000 ans avant leur entretien, il existait une autre humanité, mais que périodiquement, les humanités sont détruites par des phénomènes naturels et ressurgissent ensuite. Voilà ce qu'ont déclaré ces sages égyptiens à Solon. Tout cela est vraiment très intéressant. Il y a eu aussi les découvertes qui fit le docteur Scheiman, qui a eu le grand honneur de découvrir les ruines de Troie. Tous ses contemporains se moquèrent de lui parce qu'il cherchait l'antique ville de Troie en se basant sur les livres classiques d'Homère. Tout le monde se moquait de lui. Ils arrêtèrent de le faire lorsque son épouse, que nous avons à l'image, se para des bijoux de la belle Hélène que le docteur Scheiman trouva sur le trésor de Priam. Voyez-vous? Il ne découvrit pas non seulement un Troie, mais il a trouvé Sep et en se basant sur les études qui furent faites là-bas, il chercha le trésor de l'ancien Priam. C'est ainsi qu'il trouva les joyaux de la belle Hélène. Mais il trouva aussi des pièces de monnaie sur lesquelles étaient gravés des caractères de phéniciens qui parlaient textuellement du roi de l'Atlantide, Chronos. Mais oui, des pièces de monnaie avec les caractères phéniciens qui mentionnaient textuellement le nom du roi de l'Atlantide, Chronos. Certaines monnaies très semblables se retrouvèrent en Amérique latine, en terre de Tiwanaku, où l'on trouva également des jarres qui furent cassées à des buts scientifiques et dans lesquelles on trouva des pièces de monnaie où étaient inscrites « émissées dans le temple ou mort transparente ». Il est indéniable que c'était la trésorerie nationale de l'Atlantide. Tous ces témoignages nous font réfléchir et nous montrer qu'une autre humanité a existé ici sur Terre. S'il en était autrement, on ne pourrait pas expliquer toutes ces choses, toutes ces coïncidences, toutes ces constructions extraordinaires qui ont défié les cycles et les époques, les sages. Si nous allons, par exemple, à Monte Alban, à Mitla, Oaxaca ou à Mexique, on pourra voir des monuments incroyables, ainsi que Oaxaca, qui est une région très sismique, ici au Mexique, où il y a sans arrêt des tremblements de terre. À Mitla, les constructions sont faites pour résister aux tremblements de terre à travers des mille ans et au-delà. C'est vraiment incroyable. Nous avons aussi la pierre du soleil, le fameux calendrier aztèque. Nous voyons là-bas Tonatiuh. Tonatiuh se trouve au centre et il y a des quatre quadrants qui forment les symboles du mouvement. Et dans ces quatre quadrants, on peut voir les dates où furent détruites les races antérieures, les races humaines antérieures. Dans les rectangles à droite, dans les parties supérieures, on voit un tir avec quatre pointes, voyez-vous? C'est la date des quatre jaguars, où les fils du premier soleil furent détruits par des jaguars qui les dévorent. Là, les jaguars représentent la sagesse, qui nous indique que cette race ne dégénérait pas. C'est-à-dire, ils furent dévorés par la sagesse. À gauche, dans la partie supérieure, nous voyons la masque du dieu Ejecatl. Le dieu du vent est quatre points. Les dates des quatre Ejecatl. Les quatre dieux du vent. Ce qui nous donne la date selon les Aztèques ou les fils du deuxième soleil, la race hyperboréenne, comme nous l'appelons ici dans l'Arnos. Fut détruite par des ouragans très violents. selon les légendes. Mais le mot Turajan vient de la langue, de la langue nahuatl et maya, qui veut dire le souffle divin, le trésor divin, ou Dieu. Cette race, la deuxième race, non plus ne dégénéra pas. Ils incarnèrent l'esprit divin, le vent, le souffle divin, l'esprit divin. Eh bien, continuons. La troisième race humaine, la race lémur, elle dégénéra, elle fut détruite par les feux, par des pluies de feu et des tremblements de terre pendant ou durant 10 000 ans. Voilà comment fut détruite la race lémur. Nous parlons des millions d'années. C'est fut la chute de l'Éden, lorsque nous mangeâmes les fruits défendus, lorsque nous mangeâmes la pomme. C'est symbolique. Et depuis 18 millions d'années, nous allons vers la base. Après la race lémur, la troisième race humaine, apparut l'Atlantide. Les quadrants que nous avons sur le dessin, voyez-vous, nous montrent le quatrième soleil. Et cette race humaine de l'Atlantide fut détruite par le. C'est ce que nous dit le calendrier aztèque. Il est vraiment incroyable de voir qu'à travers le monde entier, on parle de cette race qui fut détruite par beaucoup d'eau, par une grande inondation, par un grand déluge. C'est le fameux déluge universel dont parlent les Hébreux et qu'ils étudiaient beaucoup. Ici, au Mexique, pour les Aztèques et les Mayas, on nous parle aussi des quatre volanticos ou des quatre catastrophes. Et on nous dit aussi qu'un nouvel volantico ou catastrophe s'approche et qu'il détruira cette race humaine actuelle qui existe sur Terre en ce moment. Les Mayas, nous tous, la race humaine actuelle, toute l'humanité actuelle, dans n'importe quel lieu, dans les 5 continents, nous formons partie de la 5e race humaine, appelée historiquement la race aryenne. Les Mayas l'affirment également. Ils appellèrent cette race Atonatiu. Ces termes nahuatl de la langue aztèque sont très intéressants. Atl, c'est exactement le début du mot Atlantide, n'est-ce pas? Il vient du mot nahuatl, le. Et Tonatiu signifie soleil. Le soleil Dieu, donc. C'est ainsi que représenté l'Atlantide, le soleil de le, Atonatiu, par les Aztèques. Et cette race fut détruite par le déluge universel. Voilà ce que déclarent les différentes cultures du monde et chaque culture lui donne sa teinte personnelle en fonction des symboles de celle-ci, en accord avec son époque. Mais en fait, toutes ont des similitudes pour ce qui est de cette grande catastrophe qui s'est produite et qui détruisit cette race antérieure à la nôtre parce qu'il dégénère en tombant dans les péchés capitaux. Ils s'involuèrent car ils s'étaient corrompus et la race fut détruite. Très peu pur se sauvèrent. Dans les mythes de Noé, on nous parle d'un couple d'animaux qui montent dans l'arche. Mais cette arche est en réalité un symbole car le mot arche signifie arcane. Et cet arcane veut dire mystère. Noé fut un maître, un messager. Il vint pour donner aux Atlantes les secrets, les enseignements, les procédés, les techniques pour sortir de cette dégénération, pour sortir de cette involution dans laquelle tous se trouvent, nous tous nous trouvons. C'est Noé et c'est lui qui apparaît dans de nombreuses cultures. Noé chez les Hébreux vient de la contraction Noé-Hélio. Noé, Néo-Hélio. Qui veut dire le nouveau soleil. Mais il est aussi Sustudra, Sistrus, chez les Sumériens et les Babyloniens. Il est Deucalion chez les Grecs dans la mythologie. Et un autre exemple de l'éducation universelle, Deucalion. Il est aussi Manuvaisvata chez les Hindous millénaires que l'on voit dans les Ramayana. Les mythes sont identiques dans toutes les cultures. Et ici au Mexique, nous trouvons ce couple qui annonça qu'il allait y avoir un déluge parce que les Atlantes avaient dégénéré. Et qu'il fallait construire un bac avec les voix d'un arbre appelé Ahuehuete, ici au Mexique, parmi les Aztèques. Et elle fut construite. C'est fut aussi Coxcox, ou appelé aussi Texfi. On les voit dans les mythes au Mexique et dans les symboles Ils arrivèrent dans cette barque dans le Kukulkan, pardon, Calhuacan, sur la colline de Calhuacan. Ce fut aussi chez les Norvégiens Bergalmer, Jao en Chine, Boschika en Amérique du Sud, Numos Moshaba en Amérique du Nord. Ce fut ce même symbole, ce même maître qui donna les enseignements, la connaissance. Et ce n'était pas qu'une petite barque de métal. Malheureusement, nous voulons toujours interpréter toutes ces choses au premier degré, parce que nous avons de nos jours à cette époque où nous vivons un mental dégénéré. Nous ne voyons plus les choses avec le cœur. Nous ne possédons plus l'intuition pour comprendre ce que les maîtres ont voulu nous enseigner par tous ces symboles. Non. Nous interprétons tous au premier degré. Nous avons tous un mental dégénéré, mes amis. Nous devons apprendre les choses et boire l'esprit qui vivifie, comme nous l'avons dit. Dans le calendrier aztèque, il est dit que les jaguars ont dévoré la race de ses premiers soleils, ou première race, n'est-ce pas? Mais aucun jaguar n'est venu les dévorer. Les jaguars représentent la sagesse, ce qui signifie qu'ils furent dévorés par la sagesse. D'accord? Voyez-vous les symboles, le symbolisme? Qu'ils ne dégénèrent aucunement et qu'ils ne sont pas passés par les quatre âges par lesquels passe normalement une race. L'âge d'or, comme disait Virgile, le poète de Mantoue, l'âge d'argent, l'âge de cuivre et l'âge de fer. Comment le printemps, l'été, l'automne et l'hiver de chaque race? C'est le même, c'est ainsi. Ils ne dégénéraient donc pas et furent dévorés par la sagesse. Ils furent dévorés par les tigres. Il faut donc vraiment essayer de comprendre tous ces symboles. L'archer, non, ce n'était pas une simple bac, car dans un bac, on ne peut mettre aucun couple de dinosaures ou aucun couple d'animaux existant sur Terre. D'éléphants, de tigres, de lions, etc. Non. Nous savons ici un symbole de la cabale, le symbole des numéros, la signification des nombres, des codés, qui ont les mesures de l'âge. Il faut les additionner entre eux, la longueur, la largeur et la hauteur. Et cela nous donne le chiffre 11, et en les synthétisant, c'est-à-dire 1 et 1, symbole de l'homme et de la femme. La clé de cet âge, c'est dans le mariage, dans la couple où se trouvent les secrets pour être soubesse. Tout cela est enseigné dans tous les livres sacrés du monde et nous les voyons dans les légendes, les mythes et dans les codex. Et il est étonnant de voir les terribles similitudes, les grandes similitudes qui existent chez les Mayas et chez les Égyptiens. Un grand océan les sépare. Comment est-il possible qu'avec autant de distance qui sépare ces deux cultures, comment est-il possible qu'il y ait autant de similitudes dans la culture maya et dans la culture égyptienne? Comment les Mayas et les Égyptiens ont-ils pu penser à faire des pyramides comme temples de façon identique? Voyons les pyramides principales, celles de Khéops, celles de Mykérinos, qui se trouvent en Égypte. Nous trouvons aussi une pyramide avec des escaliers exactement identiques à celles des Mayas. Pourquoi trouvons-nous de telles similitudes? Eh bien, parce qu'elles ont un tronc commun. La culture maya et la culture égyptienne ont un même tronc commun. Et ce tronc commun se trouve entre les deux, dans l'océan Atlantique, là où se trouvaient les principales cités atlantes. L'Atlantide est à l'origine de ces cultures merveilleuses, et c'est pour cette raison qu'elles ont autant de connaissances et autant de sagesse. Les Mayas et les Égyptiens ont donc un tronc commun qui est l'Atlantide. Nous pouvons aller plus loin. Allons au Tibet. Dans le temple de Lhasa se trouva un manuscrit chaldéen écrit 2000 ans avant Jésus-Christ qui dit ceci. Lorsque l'étoile de Baal tomba là ou maintenant, il n'y a que la mer et le ciel. L'étoile de Baal fait allusion ici, dans ce temple de Lhasa, à une planète gigantesque. Elle est 6 fois plus grande que Jupiter. Et Jupiter est 1300 fois plus grand que la Terre. Cette planète s'approche périodiquement, c'est-à-dire approximativement tous les 25 968 années terrestres, et elle se trouve quelque part dans l'univers maintenant. Nous sommes à côté de cette planète gigantesque appelée Hercolobus, Darnar ou Étoile de Val, ou Agenjo, comme on l'appelle dans l'Apocalypse de Saint Jean, Agenjo. C'est un plan très, très amer. En fait, la planète n'est pas tombée sur la Terre, mais son influence électromagnétique, d'accord? L'influence électromagnétique. Et c'était très importante, et lorsque celle-ci s'exerça là où maintenant ne se trouve que la mer et le ciel, c'est-à-dire l'océan Atlantique, et où existaient alors les sept principales cités de l'Atlantide, avec ses ports en or. Et voyez comment c'est intéressant. Nous voyons la même chose à Tiwanaku en Amérique du Sud. Et ces temples, humour transparente, ou ces temples transparentes, tremblèrent et frissonnèrent comme les feuilles d'un arbre lors d'une tempête. Et quand les feux et la fumée s'enlevèrent des palais, les cris agonissants de la multitude remplissaient l'air, cherchant refuge dans leurs temples, les citadelles, et les sages mous, les prêtres des rats mous, se présenta et leur dit: « Ne vous avais-je pas prédit tout cela? Les femmes et les hommes couverts de pierres précieuses et de bijoux vêtus de somptueux habits crièrent: mous, sont venus! » Et mous répondit: murmurez, avec toutes vos esclaves et vos richesses, et de vos cendres surgiront des nouvelles nations. Et de là, les sages me prophétisa. Si eux, en parlant de notre race actuelle, bien sûr, si eux oubliaient qu'ils doivent être supérieurs, non pas parce qu'ils acquièrent, mais pour ce qu'ils donnent, ils seront les mêmes destins que vous. Vous vous rendez compte de cette terrible exactitude qu'on écrit dans les temples de Lhasa au Tibet? S'ils oubliaient qu'ils doivent être supérieurs, non pas par ce qu'ils acquièrent, mais pour ce qu'ils donnent, ils seront les mêmes destins. Eh bien, les flammes et la fumée avalèrent les paroles du sage mou, et la terre se brisa en morceaux et se submergea avec ses habitants dans les profondeurs en quelques mois. Voilà ce que nous dit cette inscription chaldéenne ou tibet oriental. Les Mayas nous donnent aussi un écrit très semblable. Rendez-vous compte, nous allons essayer de comparer ce que l'on trouvait au Tibet et ce que les Mayas nous disent. Il existe une collection de manuscrits mayas qui se trouve au musée britannique, une collection qui s'appelle Les Plongeons. C'est le nom de la personne qui a réuni toutes ces informations mayas. Et on peut y trouver encore une inscription maya qui dit ceci. En l'an 6 de Khan, les 11 Moluques, dans les mois 7RC, qui sont des dates mayas, il y eut de terribles tremblements de terre qui continuèrent sans interruption jusqu'au 13 juin. Les pays des collines du Mu, la terre des Mu. Voyons. Ici, cette coïncidence des mots chaldéens et mayas qui nous parle de la terre des mœux. Elle fut sacrifiée après deux grands tremblements de terre et disparut dans les nuits, ébranlée par des feux souterrains qui firent que la terre s'enfonça dans l'océan et réapparut plusieurs fois à différents endroits. Et là, à la fin, la superficie décéda et 10 pays se séparent et disparut. Ils coulurent tous, 64 millions d'habitants, et ceci, 8000 ans avant que ne soit écrit ce livre. Voilà qui est vraiment très intéressant. Si on réfléchit bien à ces deux écrits, l'un chaldéen dans le temple de Lhasa au Tibet, et l'autre maya dans la collection de Les Plongeons, ils racontent la même catastrophe atlante. Dans le monde entier, existe des témoignages à ce sujet, chers amis. Que vous croyez que l'Atlantide existait ou pas, le témoignage de la réalité est là. Il est très intéressant de voir l'histoire de l'Atlantide et tout ce qui y arriva. Nous allons voir sa géographie avec les cartes d'Eliot Scott, qui écrivit un livre intitulé L'Atlantide. Il nous montre comment était le monde au cours des différentes époques où les Atlantes existèrent. Voilà donc la première carte de l'Atlantide qui nous montre Eliot Scott. Elle ressemble beaucoup à certaines cartes trouvées dans les grottes de l'Himalaya qui ont été mises à l'abri par certains lamas tibétains. Nous avons ici des cartes très intéressantes. Nous voyons en rouge comment était la géographie de l'Atlantide et en bleu comment fut celle de la race antérieure aux Atlantes. La troisième race, la race lémure. Comment nous pouvons le voir? Les vieux mondes étaient soudés. C'est ce que nous appelons maintenant la partie sud de l'Asie. La partie du nord de l'Asie n'existait pas encore. On voit que l'Inde existait déjà et s'appelait Perlandie par les chercheurs de perles qui existaient là-bas. N'existait aussi que la part nord de l'Afrique. C'était un continent très petit appelé Rabonsi. À cette époque, beaucoup d'initiés et des races africaines, la race Rabonsi, effectuaient de nombreux grands pèlerinages terrestres à travers toute l'Atlantide et arrivent au Mexique. Car le Mexique existait alors déjà et ils allaient juste du Yucatan dans la zone maya ou à Teotihuacan, lieu où les hommes se transforment en dieux. Ces pèlerinages étaient spirituels et faits par ces initiés de couleur noire, qui venait de Ravonsi, l'ancienne Afrique, qui, rappelons-les, n'était qu'un petit continent. Avec les catastrophes qui secouèrent les terres, Ravonsi se transforma en l'Afrique que nous connaissons aujourd'hui. En tant que gnostique, nous n'adhérons pas à la théorie de la Pangée, qui déclara qu'il existait une grande panne, une grande terre, panne, qui veut dire toute, et Gaïa, qui veut dire un seul continent qui se divisa par la suite. Mais non, cette théorie n'est pas correcte pour nous, les agnostiques. Nous sommes plutôt d'accord avec tous ces changements qui ont fait que des terres ont coulé, des terres qui ont émergé des profondeurs de l'océan et qui ont changé la géographie de la planète. Ces initiés noirs, donc, arrivèrent dans les golfes du Mexique, qui étaient alors une très belle vallée. Et à Yucatan ou à Teotihuacan. Ces grandes expéditions spirituelles qui réalisent ces maîtres, ces initiés de couleur noire, se retrouvent dans les cultures appelées au Mexique. La culture olmèque, personne ne peut expliquer cela. Ces statues, cette grande tête gigantesque olmèque, elles furent taillées et pétrières parce que les Atlantes savaient pétrir la roche comme nous utilisons de nos jours les ciments. Mais ils n'étaient pas aussi grossières que nous, aussi matériels, non. Ils ressemblaient certains éléments de la terre avec ces plantes, avec des plantes, et utilisaient la partie spirituelle des plantes, qui nous appelons les élémentaux, l'âme des plantes, l'âme de la roche, l'âme des animaux, les élémentaux, et construisent ainsi des roches de très bonne qualité. Ils les assemblaient de la meilleure façon possible, c'est ce que nous voyons. Avec cette tête gigantesque olmèque, on peut observer ici sur la photo une tête olmèque vraiment géante, observer les dessins des lèvres caractéristiques des personnes africaines, les nez, les yeux caractéristiques des africaines, voyez-vous? Ici au Mexique, il n'existait pas de caractéristiques physionomiques comme celle-là, identiques à celle-là. Et elle s'était construite en honneur à ces hautes initiés qui venaient de Rabonsi. Tout cela est vraiment très intéressant. Il y avait des villes très célèbres en Asie nommées Asgard. C'est comme cela qu'on l'appelle en Atlantide, Asgard. Il y avait une ville appelée Tikliamis et une autre, m'a rappelé ici, qui se trouvait à côté de l'actuel fleuve Amudalia qui existait en Atlantide et qui débouchait dans les mers Caspiennes. Après les grandes catastrophes, les fleuves Amudarya dévia un peu dans sa partie la plus étroite et du continent asiatique et formait les petites mares d'Aral. Tout cela vient de l'Atlantide et comme témoignage de ce qui a existé durant des milliards d'années, il y avait un canal qui arrivait dans les mers Caspiens où de nos jours il n'y a plus d'eux. Il reste simplement le canal dévié qui forme la petite mare des Aral. Tout cela faisait partie de l'Atlantide. Il y a donc eu des grandes catastrophes. La race Atlante dégénéra et fut détruite au cours de plusieurs catastrophes, chers amis. Ce ne se passe au lendemain. Au lendemain, non. Il est nécessaire beaucoup de temps, beaucoup de, malheureusement, beaucoup de phénomènes terrestres, des catastrophes pour finir, pour terminer l'existence d'un continent. Mais la légende nous la raconte de cette manière. Tout se passe dans 100 nuits, dans 100 jours, mais non. Une catastrophe arriva il y a 800 000 ans et changea la physionomie des terres, comme nous le montre ici, voyez-vous, ce changement, comme le montre ici, Elliot Scott. Des terres s'émergèrent, d'autres s'apparurent, la physionomie de la terre se transforma, l'Afrique devint plus grande, comme nous pouvons l'observer. Il y eut ensuite une nouvelle catastrophe. Voilà. Et la dernière catastrophe qui s'est produite ici est celle de la mer sud du continent que Platon appela Poseidonis. Voilà. Voyez-vous, au centre de l'océan Atlantique, c'est la dernière terre qui appartient à l'Atlantide. Et pour cela, nous avons cette remembrance. Mais en réalité, c'était un continent très grand. Et ce dernier morceau de l'Atlantide s'enfonça dans les mers il y a approximativement 12 000 ans. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes se trompèrent en pensant que l'Atlantide était une petite île, alors que c'était toute une grande humanité, un grand continent. Nous autres, la race aryenne, la race humaine actuelle, nous avons à peu près 1 million d'années d'existence ici sur la Terre. Mais les Atlantes, eux, ont vécu plus de temps que nous. Et le dernier morceau de l'Atlantide, avec des sites principaux, fut détruit il y a à peine 12 000 ans. Et il est celui dont on parle le plus dans le monde. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur l'Atlantide. Nous pouvons avoir toutes ces informations de façon directe si nous éveillons notre conscience dans le monde astral et si nous demandons de voir l'Atlantide dans les archives, dans les archives akashiques de la nature. Nous pourrons voir tout cela. La religion des Atlantes fut principalement dédiée au dieu Neptune, qui fut un maître qui exista personnellement chez les Atlantes. Il les instruit, les éduqua et leur donna de nombreux enseignements et tous les temples étaient dédiés au dieu Neptune dans cette époque. Des sculptures extraordinaires furent érigées pour ces grands maîtres. L'or était très courant dans cette époque de l'Atlantide. Il y avait des sculptures en or massif de la meilleure qualité. Les dieux Neptune, comme nous le voyons, avec cette sculpture tirée par des glorieux coursiers avec, à la derrière, une respectable cour d'une centaine de Néréides ou élémentaux des sceaux. Les dieux Neptune étant en relation avec les sceaux, bien sûr. Voilà ce que nous pouvons observer en ce qui concerne la religion des Atlantes. Tant qu'ils rendirent un culte à la divinité, les Atlantes vivaient très bien. Mais lorsqu'ils commencèrent à dégénérer, comme le disait Elena Petronila Blavatsky, quand ils cessèrent d'adorer la divinité et commencèrent à faire des temples dédiés à leur propre corps, et qu'ils commencèrent à déclarer « Nous sommes des dieux, nous sommes des rois », ils perdirent leur faculté de clairvoyance, de clairaudience, de télépathie, d'intuition, etc. Et nous trouvons nous-mêmes dans cette même situation aujourd'hui, de dégénération et sens, pour percevoir la réalité de la nature. Les dieux et les déesses qui apparaissent dans l'Iliade, l'Odyssée d'Homère, sont en réalité des rois et des reines de l'ancienne Atlantide. Et si nous voulons en savoir plus sur l'Atlantide, il faut lire ce livre dans lequel Homère vient de réunir une histoire atlante avec des sujets ésotériques antérieurs. Ce sont des livres très intéressants. Il faut les lire, non pas superficiellement comme des racontes, mais il faut y boire l'esprit qui vivifie tous ces textes sacrés, même comme une Bible. Comme langage, il savait le langage Vatan. Ce langage était vraiment très beau, puisqu'il avait 300 consonnes et 51 voyelles. Et si quelque chose vient les prouver que nous sommes en train de dégénérer, c'est la perte de notre langage. Si nous prenons par exemple un livre d'il y a à peine 100 ans, il y aura beaucoup de mots que nous ne comprendrons pas, même s'il s'agit d'un livre d'il y a à peine 100 ans. Et si on prend un livre datant de 50 à 160 ans, nous ne comprendrions rien. C'est très difficile de comprendre, même pas la moitié. Et il sera pourtant écrit dans notre langue. Par exemple, chers amis, dans notre langue maternelle, l'espagnol, nous avons le livre Don Quixote de la Mancha. Ce livre a, selon quelques experts, 20 000 différentes mots, paroles. 20 000. Et aujourd'hui, le langage d'un adolescent a seulement 1 000 paroles. Voyez-vous? Et si tout cela, pourquoi? Pourquoi se passe? Parce que de nombreux mots ne sont plus utilisés de nos jours, ainsi que la prononciation de certains mots. On commence à perdre ces mots, à perdre notre langage. Auparavant, il y avait une différence très claire entre la prononciation de la Z, l'S et de la C. Aujourd'hui, nous le prononçons de la même façon en espagnol ou en français. Nous perdons de plus en plus notre langage. Et ne vous étonnez pas que nous ayons aujourd'hui à peine 2 douzaines de consonnes et seulement 5 voyelles. Voyez-vous la différence? Si nous comparons cela avec le langage Vatan, alors c'est énorme la différence. Les Atlantes pouvaient exprimer ce qu'ils ressentaient dans leur âme avec ces langages si grands. De nos jours, nous ne pouvons exprimer le même parce que nous avons la même parole pour exprimer de différents sentiments et ce n'est pas le même toujours. Par exemple, si nous disons en anglais que l'on estime son chien, on dira I love my chien. I love my dog. Pardon. N'est-ce pas? I love my dog. Si on dit à sa mère qu'on l'aime, à sa mère, à notre mère, on dirait aussi I love my mom, my mother. N'est-ce pas? J'aime ma mère. Et si une personne nous plaît, on fait, mon homme nous plaît, on dirait réellement I love this guy. Où est donc la différence dans tout cela? Nous perdons de plus en plus notre langage. Les Atlantes avaient un langage merveilleux qui fut correctement transmis, ou maya. Le langage maya est le berceau de toutes ces langues du monde entier. Et si en réalité on voulait apprendre toutes les langues du monde, on pourrait apprendre le langage maya, qui nous en rendrait plus facile l'apprentissage, parce que de ces langages maya viennent toutes les langues du monde, oui. Il y a coïncidence. Très, très intéressante. Le langage phénicien a aussi sa racine dans le langage bantan de l'Atlantide et de là viennent toutes les langues parlées en Europe. Pour ce qui est de la science, les Atlantes nous sont surpassés, oulala, bien sûr. Nous autres, nous pensons que nous sommes des meilleurs, que nous avons de nos jours une médecine très avancée et même si beaucoup de personnes meurent, nous sommes très contents de notre médecine. Il y a des épidémies gigantesques, n'est-ce pas? Nous continuons dans une épidémie. Mais nous disons que notre médecine est parfaite. Nous avons fait des grandes avancées médicales, d'accord, c'est un fait. Mais ce qui n'est pas correct, c'est d'être prétentieux de quelque chose qui finalement n'est pas aussi grandiose. Parce que notre médecine a ses conséquences. Malheureusement. Alors, nous ne sommes pas si parfaites comme nous le pensons. L'Atlantide avait l'avantage d'avoir une science conjointe à la spiritualité. De nos jours, les prêtres sont d'un côté et les scientifiques de l'autre. Et il est rare de voir un prêtre être un scientifique au même temps. Les scientifiques critiquent les prêtres et les prêtres critiquent les scientifiques. Presque tous. Notre science et notre spiritualité sont totalement séparées aujourd'hui. Peu importe la religion des prêtres, elle reste séparée de la science. La science a divorcé de la religion et de la spiritualité, séparée du mystique et de la magie. Chez les Atlantes, elles étaient unies et grâce à cela, ils ont eu d'énormes avancées scientifiques. En Atlantide, il y avait des robots, vous savez. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de nos petits robots, mais les robots en Atlantide étaient incroyablement plus avancés que les nôtres parce qu'ils unissaient la science à la mystique et à la spiritualité. Ils construisaient donc des robots en y insérant un élémental de la nature de type supérieur. Ils savaient que les plantes contenaient des créatures élémentales, qu'elles n'étaient pas inertes, que les plantes étaient bien vivantes, que la plante n'était que le corps physique des créatures innocentes que nous avons appelées dans le passé des lutins, des gnomes, des sirènes, des sylphes, des sylphides, des ondines, et avec beaucoup d'autres noms encore. C'est pour cette raison que nos petites grand-mères avaient l'habitude de les parler comme nous parlons aujourd'hui à un chien ou à un chat. Nos grand-mères parlaient de la même façon à les plantes. Et elles avaient raison. Les Atlantes avaient la manière de ils et ils inséraient donc un élémental de type supérieur dans les robots. C'était ainsi des robots extraordinaires. Non seulement ils pouvaient les aider dans d'innombrables choses dans leur vie pratique, mais en plus, ces robots pouvaient les prévenir d'éventuels dangers à venir. Ces robots accomplissaient énormément de choses car, au lieu d'être des robots uniquement dotés d'intelligence artificielle, ils avaient en eux un élémental. C'étaient des robots, je le répète, merveilleux. En réalité, ce furent eux qui construisirent les pyramides et, comme nous le disons, les Atlantes savaient travailler la roche. Et non seulement cela, mais ils avaient en plus la capacité de faire léviter la matière, de faire en sorte que la matière ne pèse plus rien. N'est ainsi qu'ils purent construire les pyramides en utilisant des petits appareils qu'ils pouvaient tenir dans la paume de leurs mains. Ils s'appuyaient sur des boutons et enlevaient ainsi les poids de la matière, les faisaient léviter. C'est ainsi qu'ils purent construire les pyramides. Alors, les pyramides furent construites par les sages de la société de l'Akkaldan. Cette société de l'Akkaldan était une des meilleures universités de l'Atlantide, si on peut s'exprimer ainsi. Elle était composée de scientifiques extraordinaires qui furent les constructeurs des pyramides que nous connaissons aujourd'hui dans l'Égypte. Le sphinx était leur symbole sacré, symbole caractéristique de cette société. Ce sphinx que nous trouvons chez les Grecs et vient sur les sujets. Sur les Égyptiens, bien de l'Atlantide. Puisque les sciences et la mystique n'étaient pas séparées, ils possédaient aussi des machines télépathes. Ils n'avaient pas besoin de faire de grandes études parce qu'ils avaient des machines qui télépathiquement leur envoyaient des informations intellectuelles très précieuses. Voilà ce que faisaient les Atlantes. Beaucoup de trésors atlantes se trouvent actuellement en Asie, dans le désert de Gobi. Dans le désert se trouvaient les sites de Tigliamis et de Maraplé ici. Sous les sables de ce désert se trouvent beaucoup de ces appareils dont nous parlons ici. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas y accéder parce qu'imaginez-vous, imaginez ce que nous ferions avec ces appareils antigravitationnels. Que croyez-vous que nous ferions? Ce n'est pas difficile à deviner. Nous les utiliserons immédiatement dans les guerres. Les grandes puissances du monde s'en servirait pour faire la guerre, et la guerre deviendrait beaucoup plus terrible et désastreuse, beaucoup plus horrible. Oui, il est possible d'être pur, d'être pire, pardon. Ces appareils existent bien et sont donc ensevelis sous le sable du désert de Gobi. Mais ils sont bien évidemment protégés. Personne ne peut les toucher si un jour les vents arrivaient à en découvrir certains, et si quelqu'un les touchait, il mourrait immédiatement sur place. Ces lieux et ces appareils sont protégés par des élémentaux, des gnomes et des pygmées, car il serait désastreux pour l'humanité actuelle que ces appareils soient utilisés. Ils seront seulement remis à la prochaine race humaine qui existera sur la Terre, la sixième race humaine, puisque nous sommes la cinquième, la race aryenne. Eh bien, la sixième race humaine s'appellera la race Koradi. Koradi. Et elle aura tout cela en échange d'une conduite juste. Ils auront toutes ces avancées merveilleuses qui ont appartenu sous Atlante. Les Atlantes connurent l'énergie nucléaire, bien sûr. Ils l'utilisèrent pour la paix. Leurs temples humains transparents étaient éclairés avec de l'énergie atomique. Leurs vaisseaux aéronautiques et maritimes fonctionnent à l'énergie atomique. Ils découvraient l'énergie atomique non pas comme nous grâce à l'uranium, le plutonium et à tous ces éléments radioactifs qui causent tant de mal. Non, ils purent les sortir de certains règnes végétaux. Et comme bien sûr, la mystique et la science s'étaient réunies, ils pouvaient faire des merveilles. Ils nommèrent cette énergie atomique Vril et l'utilisèrent pour la paix. Mais lorsque cette race dégénéra, ils l'utilisèrent pour la guerre. Ils firent des explosions atomiques dans l'Antiquité et cela a été relaté dans toutes les parties du monde. Il suffit de lire simplement les Mahabharata. Le Mahabharata, livre sacré de l'Inde, de l'an millénaire, et qui date, bien sûr, des milliards d'années. On peut lire dans certains versets. C'était un projectile chargé de toute la force de l'univers. Rendez-vous compte de ce que dit cette inscription qui date des milliards d'années. Un projectile chargé de toute la force de l'univers est une colonne de feu incandescente. Des fumées et des flammes brillantes comme 10 000 soleils s'enleva dans tout son splendeur. C'était une arme inconnue, un éclair de fer, un gigantesque messager de mort qui réduisit en cendres toute la race des Vrishnis et des Sandakas. Les cadavres étaient tellement brûlés qu'on ne pouvait pas les reconnaître. Leurs cheveux et leurs ongles tombaient, les objets se cassaient sans raison. Les oiseaux devinrent toutes blanches, et très peu de temps après, tous les éléments se trouvaient infectés. Et pour échapper de ces feux, des soldats plongèrent dans les fleuves pour se laver avec leur pactage. Une barre fatale de la mort mesurant 3 coudes et 6 pieds, telle la force du tonnerre et Indra. Au milieu, détruit ici toute créature vivante. On a vraiment l'impression, en lisant cela, qu'il s'agit d'un reporter qui décrit une explosion atomique moderne. Tout ceci est écrit dans les Mahabharata, parce qu'il y a eu des explosions atomiques dans l'Antiquité, et des témoignages de cela existent dans toutes les parties du monde. Dans le désert de Gobi, dont nous parlions, on a fait des expériences d'explosions atomiques. Et avec les instants chaleur qui se produisent, alors, on fait que le sable se transforme d'une sorte de beurre de couleur verdâtre, et dans ces déserts de Gobi. À certains endroits, sur de grandes surfaces, on retrouve des traces de ces beurres qui sont présentes depuis des milliards d'années. De nombreuses preuves existent partout dans le monde, et ce n'est pas la première fois que nous nous trompons. Nous l'avons fait aussi par le passé. Et non seulement cela, mais au lieu de rechercher dans les seins de la nature des remèdes pour nos maladies, parce que la mère nature est notre mère, et comme telle, elle nous donne tout ce dont nous avons besoin. Dans notre mère nature, il y a tout ce qu'il faut pour nous guérir de n'importe quelle maladie. et de nous prévenir des grandes calamités qui nous arrivent. Mais nous préférons être comme une Atlantide. Une Atlantide apparue lors de l'opothérapie, de la même façon qu'elle apparaît aujourd'hui. L'opothérapie, c'est-à-dire, nous appliquons des sucres glandulaires aux malades, aux vieillards, pour les guérir ou pour les rajeunir. Ceci est très à la mode de nos jours, n'est-ce pas? L'opothérapie animale, l'extraction des sucres glandulaires du porc, des chevaux et d'autres animaux, est aussi des traits humains pour nous les appliquer. Quand nos glandes cessent de fonctionner, les médecins nous injectent des hormones, et ce qui nous donne une amélioration temporelle. Cela s'est passé aussi en Atlantide, mais c'était beaucoup plus développé que maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils réussissaient à appliquer des sucres glandulaires, mais ils arrivaient aussi à sortir les fluides des chakras. Dans chaque plexus se trouve un chakra. Il retirait les fluides psychiques des chakras et se les appliquait, et ainsi, ils pouvaient vivre beaucoup plus longtemps. Ils firent des transplantations cardiaques comme nous le faisons aujourd'hui, ce dont nous sommes très fiers. Mais en plus, les Atlantes faisaient également des transplantations des cerveaux. Ils allèrent jusque-là. Ce n'était pas une bonne idée. Il vaut mieux revenir à notre mère nature, car elle nous donne toutes ces dons dont nous avons besoin. Voilà ce que nous devrions faire. Agrandir les champs des études de ce que nous laissèrent les Égyptiens, les Mayas, les Aztèques, les Incas. Nous pourrions y trouver beaucoup de formules, beaucoup d'informations dont nous pourrions nous servir. Mais nous voulons plutôt ce qui est plus difficile, ce qui rapporte le plus d'argent. Faire de plus en plus d'affaires. Nous sommes à nouveau en train de commettre les mêmes erreurs. De faire exactement ce que faisaient les Atlantes. À l'époque de l'Atlantide, non seulement on faisait de l'opothérapie humaine, mais il y avait plus grave encore. En ce temple-là, existait un règne du nom de Katevet. Celle des tristes souvenirs, des tristes destins. Cette reine ordonnait des sacrifices humains d'enfants et de jeunes gens, et ces sacrifices étaient dédiés aux entités négatives. Ils amenaient ensuite les cadavres dans des laboratoires souterrains où des prêtres et médecins extrayaient les sucs glandulaires ainsi que l'hyperchimie des chakras, c'est-à-dire les fluides psychiques des chakras pour que cette reine puisse se les appliquer. Et qui lui permit de vivre durant de longs siècles. Très belle, elle séduisait les rois et les princes de l'Atlantide. Évidemment, tout cela amena des conséquences négatives et l'Atlantide fut détruite. Pardon. L'Atlantide dégénéra et devint anthropophage, cannibale, parce qu'ensuite, les cadavres étaient offerts à la foire Atlante, à ville qui les dévorait. Les Atlantes faisaient également de la magie noire, cette magie noire connue par les Caraïbes. Les cannibales d'Afrique sont les conséquences de la dégénération de l'Atlantide, mais il y a des dégénérations de l'Atlantide par d'autres parts du monde. Les races passent donc par des quatre âges. L'âge de fer, l'âge d'argent, l'âge de cuivre et l'âge de fer. Nous-mêmes, nous passons par des quatre étapes. L'âge d'or est passé. C'était l'âge où les tiens et les miens n'existaient pas. Imaginez-vous? Imagine. Les tiens et les miens n'existaient pas. Tout appartient à tous. Il n'y avait pas de frontières. Tout était à tout le monde. Il n'y avait pas de guerre. N'importe qui pouvait se servir dans le jardin du voisin sans que celui-ci ne se fâche. Pendant l'âge d'argent, il y avait des principes spirituels encore, mais les choses devenaient de plus en plus matérielles. Durant l'âge de cuivre, commencèrent les guerres, les frontières, et maintenant nous sommes, à notre époque, dans l'âge de fer de la race aryenne, les fils du cinquième soleil, selon les Aztèques, dans lesquels il y a une dégénération maximum. Les blancs deviennent noirs. Les noirs deviennent blancs. C'est ce qu'il s'est passé en Atlantide dans leur étape de dégénération et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec nous. Nous pouvons être épouvantés par ce tout qui s'est passé en Atlantide. La reine Katevet, celle des tristes souvenirs, nous horrifiait. Elle qui faisait des sacrifices humains, et faisait enlever les parchemins des victimes pour rester belle, et ensuite faisait jeter les cadavres à la foule avilée qui les dévorait. Mais souvenez-vous? Souvenez-vous des camps de concentration, des chambres de gaz, des guerres, de la guillotine, de la faim qui existait dans le monde d'aujourd'hui, la contamination des mers, des fleuves, des rivières, la contamination des océans, de l'atmosphère, l'exploitation des personnes, les crimes, la violence, l'extermination d'animaux, etc. Tout cela laissait bien derrière la dégénération atlante. Nous sommes horrifiés par la dégénération atlante, le cannibalisme, les sacrifices humains. Bien, nous sommes bien pires. En réalité, nous sommes identiques à eux. Nous sommes dans les fins de cette race aryenne, dans le temps de la fin. Il nous reste très peu de temps. Nous semblons dire aux Atlantes, « Poussez-vous, nous arrivons !» Nous avons attendu, et ce qui nous concernait, une dégénération à des niveaux incroyables. Pour ce qui est de la science, nous ne pouvons pas laisser galère. Mais en ce qui concerne la dégénérescence, oui, nous pouvons dire que nous les surpassons. Nous sommes de plus en plus corrompus. Notre évolution est de plus en plus importante. Maintenant, nous pouvons dire les paroles de Sagemur, les prêtres rameux. Ne vous avais-je pas prédit cela? Et alors, toutes ces femmes et ces hommes couvertes de bijoux, de pierres précieuses et d'habits somptueux créés, me sont venus et me répondit. Vous mourrez avec vos esclaves et toutes vos richesses, et si eux, c'est-à-dire nous, oubliez qu'ils doivent être supérieurs, non pas parce qu'ils acquirent, mais pour ce qu'ils donnent, connaîtront les mêmes destins. Comme dit l'axiome, celui qui ne connaît pas le passé est condamné à le répéter. Nous sommes donc en train de passer par la même chose, par laquelle passa l'Atlantide. Et à nouveau, nous devons nous souvenir des connaissances, de la sagesse, de l'âge, qui peut nous sortir de l'état dans lequel nous nous trouvons, et d'en finir avec cette évolution dans laquelle nous nous trouvons plongés intérieurement, personnellement, et de faire ainsi de notre vie quelque chose de meilleur, pour avoir une opportunité. Voilà, chers amis, c'était notre conférence d'aujourd'hui, l'Atlantide. Il y a beaucoup d'informations dans le livret de l'Arnos. Nous vous recommandons par exemple la revue La Sagesse des Lettres, numéro 24, qui aborde ce thème de l'Atlantide. Chers amis, nous avons aussi la leçon de notre cours de Renos, de l'Antichambre, la première degré, avec le sujet de l'Atlantide pour connaître un peu plus de ces sujets. Chers amis, comme toujours, merci beaucoup pour nous accompagner. À bientôt.